appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Dans sa 15e tribune, Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre, affirme que dans les contextes actuels, les deux accords politiques issus de deux dialogues, respectivement de la cité de l'UIA et du centre interdiocésain Senko, sont aujourd'hui caduques. Il estime que la RDCO se retrouve ainsi avec un gouvernement sans accord, à côté d'un accord sans gouvernement. C'est pourquoi il propose un troisième dialogue en vue de résoudre la crise politique. Certains observateurs trouvent à l'instant inopportun ce énième dialogue et une autre opinion pense que ce dialogue devra plutôt régler définitivement la question de l'organisation des élections. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur notre page Facebook et commentez aussi ce sujet à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 303 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Nico Kalambay et André Mongou concourent à la production de cette émission, supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pour certains observateurs, la caducité de ces deux accords repose, en tout cas pour l'un, en ce qui concerne que l'a été appliqué à moitié. L'autre, par contre, souffre encore d'application. C'est pourquoi il va falloir repenser d'autres négociations pour finalement arriver au résultat. Alors, qu'en pensez-vous, Omar? Vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour J.R. Lungembo et bonjour à toute l'équipe de PA.
Vous avez la parole, quelle est votre contribution Omar?
Merci beaucoup J.R. du verbe que vous m'adjugiez. Je vous dis merci pour ce sujet intéressant. Mais je pense avant toute chose, dès l'éliminer de ma cogitation, je voudrais quand même dire merci au chef de l'État qui a compris qu'il est le seul à trouver la solution à ses problèmes pour son idée noble de consultation. Quand on reconnaît un homme d'État, pas parce qu'il dit mais parce qu'il fait. Par rapport au débat actuel et au thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, je l'ai dit la fois dernière, nombreux m'ont qualifié de prophète des malheurs. Je vous ai dit que cet accord n'aboutirait pas face à l'immaturité politique des acteurs politiques congolais. Aujourd'hui, on me donne raison. Ce qui tue ce pays hier, il y a trois choses. Premièrement, c'est l'immaturité politique des soi-disant acteurs politiques congolais. Deuxième chose, c'est l'indifférence de la population qui s'évertue à critiquer et ne fait rien. Troisième chose, c'est l'inaction de l'élite congolaise, car une élite n'est pas là pour écrire des livres, mais pour apporter des solutions d'un pour son pays. Voilà pourquoi je dis, pour revenir à votre thème, moi je pense que c'est inopportun de faire un troisième dialogue. Pourquoi? L'histoire est une science têtue. On n'en trahit pas, mais on en subit les conséquences. Et s'il faut interroger l'histoire de ces pays, parce que nous avons le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, on se rend compte qu'on a eu beaucoup de dialogues qui n'ont jamais abouti. Et les mêmes causes répétant les mêmes effets, il faut qu'on adopte d'autres solutions. À des problèmes graves, des solutions aussi graves. Pourquoi je dis que c'est inopportun? Premièrement, nous avons toujours eu des dialogues dans ces pays. On a eu Outenika, Accord de Lusaka, Concertation Nationale, d'octobre. On s'est toujours rendu compte que face à l'immaturité politique, indifférente de la population et inaction de l'homme politique intellectuel, rien n'a été fait. Moi, je pense à cet instant très JR, le troisième dialogue paraît inopportun parce qu'on a toujours décrié l'inopportunité. On peut bien prendre des résolutions, on peut bien décider. Ça fait très mal, en plein 21e siècle, où tout le monde vise la modernité, des hommes intellectuels, politiques, comme on peut le dire, sont incapables de se mettre d'accord sur la désignation d'un premier ministre et sur la décision d'un ministère. Or, ils ont toujours dit que le peuple d'abord, ils ont toujours dit que c'est l'intérêt supérieur qui est le salut public des nations. Donc il y a un problème sérieux. Face à cette immaturité politique, face à ce manque de volonté politique, moi je dis une chose et je le dis sans peur d'être contredit, après avoir fait une analyse politique de nos acteurs politiques, j'ai revenu une chose. Premièrement, les acteurs politiques de la majorité sont brillés par une arrogance et ils sont des oui-vistes. Tout ce que le gouvernement fait pour eux est bon pour garder leur pouvoir. Et les gens de l'opposition sont des non-listes, donc ils sont brillés par une haine. Ils pensent qu'être à l'opposition, c'est de vous un saint, ceux qui gèrent sont des mauvais. Donc on a un problème d'amour propre et des intérêts personnels. Alors face à cet état de choses, je pense que l'idée de Mobutu paraît inopportune. Et l'élite congolaise aussi. En France aujourd'hui, M. Emmanuel Macron était ministre, je crois, des finances de François Hollande. Mais il a pu critiquer le gouvernement dedans. On reconnaît un grand homme intellectuel lorsqu'il sait appliquer son intelligence en gérant. On voit aujourd'hui la tribu de Mobutu que j'apprécie beaucoup. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait ses propositions pendant qu'il gérait? Je pense que face à toutes ces choses, l'immobilisme de l'homme politique congolais, son manque de volonté, son immaturité, l'indifférence de la population, je pense que les trois sont inopportuns. Qu'est-ce que je propose? Parce que la démarche intellectuelle a des sens que si on ne se limite pas à critiquer, à proposer, je propose l'implication personnelle du chef de l'État. Notre loi suprême, j'ai cité la Constitution, fait de lui le garant de la nation et du bon fonctionnement régulier des institutions. Il est là en principe de la légalité, de la continuité et de la régularité des services publics. Donc on ne peut pas en contester. Il est en ces jours impérieux et le jeu qui s'élève pour prendre la solution. Ça ne lui arrivera rien, sa qualité d'homme d'État, s'il nommait ce qu'on veut. Autre chose, il faut que l'homme politique soit réaliste des choses qui se passent. Tout le monde sait qu'il y a un mot à dire dans ces pays. Il y a eu le mort, on a vu les conséquences. Il y a des gens qui passent à la télé, à la radio pour dire le peuple, mais si vous l'interrogez, il n'y a rien. À part la volonté explicite du chef de l'État qui doit trouver la solution pour la nation, il faut que les hommes politiques de l'opposition de la majorité soient réalistes des choses qui se passent. Savoir qu'actuellement, c'est le rassemblement Félix qui domine, et si on ne le nomme pas, il y aura des crises. Il faut qu'on ait un réalisme.
Est-ce que Omar, vous partagez l'avis qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'accord de l'Union africaine est caduque? En tout cas, si nous devons emprunter le mot de Mobutu, ancien premier ministre, l'accord du 31 décembre est encore d'actualité et surtout avec la résolution 2348 du Conseil de sécurité qui vient encore de croire à toute sa disposition, à toute son intégralité.
Je suis d'accord hier de constat ou de l'état il est fait par Adolphe Mobutu que j'apprécie beaucoup, mais je vous dis qu'il n'aboutirait pas. Pourquoi? Parce que le même cause nous a amené aux mêmes effets. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? J'ai voulu la fois passée, lorsque vous recevez M. Omori Nkunjike, les accords politiques fistules politiques de mettre des accords privés. Et ils sont régis par un principe sacro-saint de trop qu'on appelle pacte en sous de Rwanda. Les accords privés sont évoqués de bonne foi. Cette bonne foi n'existe pas. La majorité pense par rapport à son arrogance qu'elle doit rester au pouvoir. L'opposition pense qu'elle, elle a de bonnes idées, que la majorité travaille mal et la société civile ne fait absolument rien. Parce qu'il y a absence de la bonne volonté des accords qui doivent être pris, en tout cas je ne pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Un accord n'a de sens que s'il est appliqué. Or l'application des accords politiques a un préalable essentiel, c'est-à-dire la bonne volonté, ça n'existe pas. Alors, puisque le plan A n'a pas marché, il faut passer au plan B. C'est quoi le plan B? Premièrement, nous sommes un État régi par le régime des Nations Unies. Il y a une résolution de la Conseil de sécurité des Nations Unies. Si l'accord n'est pas respecté, moi je pense qu'il y a des mesures prévues par la Charte de l'ONU qui peuvent pousser un État avec des mesures coercitives à respecter un accord.
Merci beaucoup.
Deuxième chose, Martin Luther King disait, ce qui effraie, ce n'est pas l'indifférence des méchants, mais c'est l'inaction des gens bons. Nous qui sommes bons intellectuels opposants, posons des actes pour pousser les autres. Mais tout se résume, j'ai fini par là parce que j'ai pris trop du temps, la bonne volonté de ceux qui doivent gérer. Puisqu'il n'y en a pas, nous implorons, nous supplions le chef de l'État qui a toujours prié par la sagesse, il est le seul à trouver la solution. Tous ceux qui l'entourent sont des mauvais conseillers, tous ceux qui l'entourent opposition sont des mauvais conseillers. Attends que jeunes Congolais, juristes congolais, intellectuels congolais, je le supplie pour dire, Monsieur le Président, vous êtes le seul conseiller de votre propre vie, votre conscience est votre Dieu. Prenez des actes et vous marquerez votre histoire. Vous êtes le seul à trouver la solution à ces problèmes. Et nous, population, ne restons plus indifférents, car il en va de notre solution. Voilà ma contribution hier, je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Omar. Vous remerciez le chef de l'État pour son idée noble de consultation et vous l'aviez d'ailleurs souhaité lors de la dernière émission que nous avions réalisée autour de cette question des négociations directes du centre interdiocésain. C'est vrai, vous l'avez reconnu que lors de cette émission, de cet échange citoyen, il y a eu une partie des gens qui avaient pratiquement partagé votre point de vue. Mais aujourd'hui, en tout cas, cas, l'histoire vous a donné raison et vous l'avez dit si bien, vous l'avez bien si bien dit que effectivement les politiciens ou les politiques congolais pêchent sur trois points, notamment l'immaturité et aussi il y a cette question de l'indifférence de la population et l'inaction de l'élite congolaise. Voilà. Donc vous souhaiterez que aujourd'hui, à partir de l'implication du chef de l'État, que l'élite congolaise ne s'évertue pas seulement à critiquer, mais aussi à faire des propositions concrètes pour qu'on arrive à des solutions. Mais vous avez appuyé la résolution 2348 des Nations Unies qui prouve à suffisance qu'un troisième dialogue ne sera plus opportun. Omar, merci. Promesse, vous êtes en Bujimaï, bonjour.
Bonjour, monsieur JR.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée et j'ai bien suivi mon prédécesseur. Je n'ai pas eu à lire personnellement la tribune de M. Moïse, donc seulement j'ai pu lire l'annonce sur votre page. Et les raisons qu'il avance, je crois que bon, c'est une analyse personnelle. Lorsqu'il dit que nous sommes actuellement en présence d'un gouvernement sans accord et à côté d'un accord sans gouvernement, je crois que sur ce point-là, je ne suis pas très d'accord avec lui, parce qu'il faut le reconnaître que le gouvernement Badibanga, c'est un gouvernement issu de l'accord
du 18 octobre.
À côté de cela, bon, pour moi, un troisième dialogue est-il opportun ou pas? La réponse est directement non. Mon prédécesseur venait de s'étaler assez longuement sur ça. Mais ce que moi je voudrais aussi ajouter, c'est que le problème n'est pas d'aller de dialogue en dialogue, mais c'est de la volonté, comme le disait aussi mon prédécesseur, de pouvoir appliquer les accords que l'on prend à l'issue de ces dialogues. Qu'est-ce qui prouve qu'un troisième dialogue aboutirait à un accord que l'on appliquerait contrairement aux deux autres dialogues?
Oui, promesse. Il y a un groupe qui propose que le troisième dialogue puisse, au fait, tabler uniquement sur la question de l'organisation des élections, par exemple.
J'en venais.
Oui, allez-y.
Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui définir qu'est-ce que M. Mozito appelle crise actuelle. Quel est le problème réel que nous avons aujourd'hui au pays? C'est sur ça que nous devons tabler afin de pouvoir aligner des pistes de solutions, si je peux dire. Le problème actuel avec le dernier accord, c'est que, nous le disons bien, il a été signé, mais c'est son application qui pose problème. Et lorsque nous commençons à scruter le problème que pose cette application, ce sont les égos personnels des politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, qui bloquent les choses. Donc le problème, ce n'est pas d'aller de dialogue en dialogue, parce que nous irons à un autre dialogue qui aboutirait à un autre accord qui souffrirait aussi d'application. Le problème de volonté est celui-là qui se pose aujourd'hui au pays. C'est ainsi que sur la page, lorsque j'ai réalisé, je me disais, le pourquoi du troisième dialogue ne serait-il pas alors aujourd'hui, ne serions-nous pas plutôt en train de donner raison au groupe de ceux qui autrefois réclamaient, au lieu de pouvoir parler d'un dialogue entre politique, majorité, opposition, mais plutôt d'une tripartite entre politique, opposition et majorité, ainsi que la CENI. Parce que la grande problématique ici, c'est l'organisation des élections. C'est de là que découlaient tous ces problèmes. Lorsque les élections n'étaient pas organisées, il fallait alors organiser un dialogue pour pouvoir justifier l'après au-delà du mandat du président. Donc le problème, c'est l'organisation des élections. Et s'il faille voir ce problème comme dans ce sens-là, il faut revenir, je crois, à cette tripartite qui plébiscité autrefois honorable Bazaïba ainsi que son groupe, parce que c'est cela, je crois, qui résoudrait le problème. Mais à l'étape où nous sommes déjà arrivés aujourd'hui, je crois que l'accord qui a déjà été signé doit nécessairement être appliqué. Mais seulement, il faudrait que tous les politiques se départent de leur ego afin de pouvoir donner libre cours à la nation. Imaginez-vous, le dernier accord, disons, le gouvernement Badibanga, il est aujourd'hui en train de pouvoir exercer. Mais c'est un gouvernement, à mon avis, qui se demande jusqu'à quand il va tenir. Mais imaginez-vous, depuis décembre qu'il est là, jusqu'à ce jour, ça fait 4 mois. Mais c'est pendant 4 mois que la nation doit vivre, mais avec un gouvernement qui ne sait pas s'il va continuer ou pas. Comment voulez-vous qu'un pays puisse fonctionner de cette façon?
Voilà, merci beaucoup. Donc il y a un effet d'attentisme parce que personne ne sait qu'est-ce qui va se passer demain, et de quoi sera fait le lendemain, surtout en ce qui concerne la politique de ce que vous avez soutenu, que c'est inopportun, aussi c'est troisième dialogue. Mais le souci primordial qui doit animer les uns et les autres, c'est plutôt l'organisation des élections, tendre directement vers les élections. Et c'est à ce niveau-là que vous avez donné, vous êtes tenté de donner la raison, donner une raison à ceux qui soutiennent la tripartite entre la CENI, le gouvernement et l'opposition. Donc vous donnez clairement raison à cette plateforme qui a soutenu cette thèse pendant longtemps. Merci beaucoup, Promesse, d'avoir appelé Dembujimaï. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les amis, merci. JR, je crois que de tous les professeurs d'université qui défilent au niveau des radios au CAPI, il n'y a aucun d'entre eux qui a fait 98% à l'université. Mais ils sont professeurs, ils sont brillants. Ceci voudrait dire en clair que je m'insurge en faux contre la proposition d'Adolphe Mouzitou, d'autant plus que le chef de l'État lui-même a reconnu que l'accord a réussi à 98%. Donc c'est déjà un grand pourcentage.
Oui, mais ingénieur Valérie, mais lorsque nous suivons des analyses des uns et des autres, on a l'impression aujourd'hui que le 98% des problèmes qui bloquent aujourd'hui la désignation du Premier ministre et le président de Sensa, c'est en réalité, c'est cela le 98%.
Oh, si tel est le cas, alors là, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que nous sommes arrivés très loin. Nous devons comprendre que les négociations doivent se faire, pas pour que la majorité gagne, pas pour que le rassemblement gagne, mais pour que le peuple congolais gagne. Or, nous avions constaté qu'au lendemain de la conclusion de l'accord du 18 octobre, donc le 19 octobre, il y a eu des soulèvements dans la rue, comme pour dire que le peuple ne s'était pas retrouvé dans cet accord. Par contre, l'accord du 31 décembre a créé une accalmie. Par conséquent, il s'agit là d'un accord que nous devons accepté. S'il y a deux petits points qui restent, mais nous devons avoir le courage de lire l'accord et de nous dire où est-ce que ça bloque et qu'est-ce que on doit faire. Nous savons que nous sommes bloqués au niveau du mode de désignation du Premier ministre et du Sensa, et du poste du président du Sensa. Mais s'agissant du Premier ministre, je ne sais pas. L'accord dit bien que le Premier ministre sera présenté par rassemblement.
Oui, on a déjà dépassé largement cette étape. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des consultations. Est-ce que vous estimez, comme ce fut par le passé, les consultations populaires qui, en fait, ont abouti d'ailleurs à la dissolution du MPR comme parti État, est-ce que vous partagez d'avis que ça aurait été un schéma idéal?
C'est encore, même si ça pouvait être idéal ou pas, mais par rapport au moment, je crois que nous allons encore reculer parce qu'il ne reste plus que quelques mois. Le problème, c'est que j'attends demain. Moi, je voudrais que les chefs de l'État réagissent conformément au conseil de l'honorable Henri Thomas Lokondo, que je salue en passant, un homme que j'ai toujours respecté à cause de sa neutralité scientifique. Il a dit que si les chefs de l'État pouvaient se surpasser des passions des uns des autres, voire la volonté du peuple, ça sera une bonne chose. Le problème est simple. Le peuple veut qu'on arrive à décanter la situation. S'il y a eu quelques personnes au niveau du rassemblement qui se déclarent ceci, cela, ce n'est pas la majorité d'en profiter pour sauter et commencer à traiter avec un groupe, parce que nous avons suivi les porte-parole de la majorité qui a reconnu que non, il y a eu une frange de rassemblement qui est passée, qui a dit qu'elle est prête à donner trois listes, une liste de trois noms chefs de l'État. Mais si tel est le cas, nous irons encore de blocage en blocage. Que la chose soit résolue au mieux du peuple congolais, il faudrait que l'absolu soit préservé. Nous sommes allés d'abord au dialogue parce qu'on n'avait pas organisé les élections à temps. Mais si aujourd'hui, nous avons un cadre de légitimité, encore faut-il ajouter que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'appuyer. Alors, c'est à un moment comme ça que Adolphe Mouzitou et sa tribune nous disent que nous devons annuler. Non. Et quelles sont les garanties que lui nous donne qu'avec son dialogue, il n'y aura plus encore de blocage? Parce que nous avons remarqué que les palous aussi nous embrouillent trop. à des grands moments donnés de l'histoire, les Palous viennent avec... Les Palous a fait 5 ans, n'est-ce pas, la primature. Qu'est-ce que les Palous nous a apporté?
Voilà,
il nous a rien apporté.
Merci beaucoup, Valérie. Donc, merci beaucoup, Valérie, d'avoir appelé. On va prendre Donna, qui est à Kinshasa. Donna, bonjour et bienvenue. Voilà, si vous avez suivi Valérie, il y a déjà des avancées qu'on a pu enregistrer au travers de cet accord du 31 décembre 2016 et qu'il va falloir aujourd'hui aller de l'avant lorsque le Conseil de sécurité par sa résolution 2348 appuie d'ailleurs cet accord. Il est temps pour que les politiciens puissent montrer de leur bonne foi pour l'application de ces textes qui sont soutenus d'ailleurs par les uns et les autres. Donna, est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je partage le même avis que le prédécesseur. Je trouve le troisième dialogue d'inopportun, comme ils les ont dit. Je ne trouve pas que le dialogue récent est caduque parce qu'il n'a pas encore été appliqué.
Donc pour vous, la caducité de cet accord ne se justifie pas parce que, en fait, c'est la souffre peut-être d'application. Il y a pas la caducité. Merci beaucoup, Donna. Corneille, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Est-ce que vous estimez, comme les autres, que c'est inopportun ou carrément il faut, à ce niveau, qu'on utilise d'autres termes, peut-être la consultation ou encore de consultation directe, de consultation populaire? Qu'est-ce que vous proposerez, vous, personnellement, Corneille?
Excusez-moi, mais je vois que notre classe politique vraiment fait la honte du pays. C'est pas possible, cela. Tout le monde a accepté, même la majorité, ils ont tous, tout le monde a accepté le dialogue de Cinco. Mais comment voulez-vous qu'on puisse revenir là-dessus, là? C'est pas possible, ça, qu'est-ce qu'ils veulent, ils parlent de Palou, on peut leur demander, Palou, c'est quoi encore? Mais c'est pas possible, c'est. Palou, c'est pas du Mumbi signifié. Quel est le Mumbi signifié?
Alors, là, oui, Corneille, là, il s'agit d'une réflexion. Il s'agit d'une réflexion.
Oui, je comprends. Excusez-moi.
Chacun, dans la Constitution, chacun peut mal proposer.
Mon Dieu.
Oui.
Les choses ont évolué. Demander seulement à la majorité d'accepter le Premier ministre que leur a proposé, c'est fini. Et le président du Conseil, où est le problème?
Oui, mais parce qu'il y a blocage, il y a blocage maintenant, Corneille. Il y a blocage.
Comment peut-on le dire? C'est pas honnête, cela.
Oui, tout le monde est d'avis qu'il y a impasse. Les deux camps ne s'entendent pas sur deux points. Et les deux points de divergence risquent de nous amener même au-delà de la période prévue pour les élections. Alors, comment faire? Il y a eu un Congolais qui a réfléchi, qui propose un troisième dialogue, mais pas un troisième dialogue dans le sens de prendre tout le monde. C'est-à-dire voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui a marché par rapport au premier accord et qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport au deuxième accord et puis trouver le point d'accord, en fait, pour aller de l'avant.
Moi, je suis un faux mathématicien, même les vrais mathématiciens. Quand il y a une solution, il y a 98% qui ont réussi. Mais on abandonne les deux, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils veulent encore, monsieur? Suivez les 98%, mais c'est ce que les 98% a accepté. Et pourquoi vous faites la chose? Mais pourquoi bon, tout ça, c'est pour perdre le temps, pour qu'il n'y ait pas d'élection cette année encore. Non, c'est pas possible, ça.
Voilà. Merci beaucoup, Corneille. 081-890-4969 pour votre intervention. En direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Oui.
Merci.
Votre connexion Internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
Voilà, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine de change citoyen. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Steve Kivuata, cadre du Palou, et également porte-parole d'Adolphe Mouzitou, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur Steve, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors, vous avez parlé de la caducité de deux accords.
Effectivement.
Alors, ça repose sur quoi concrètement?
Ça repose premièrement sur le fait que, si on peut résumer par une phrase, le fait qu'actuellement nous avons un accord, un gouvernement sans accord et un accord sans gouvernement. C'est-à-dire que premièrement, le premier dialogue nous a pondu l'accord de la Cité de l'Union africaine, et cet accord, comme vous le savez aussi bien que moi, a été abrogé par le deuxième accord, l'accord de Saint-Sylvestre. Mais malheureusement, ce deuxième accord a prévu que les élections doivent être organisées en décembre 2017. Ils avaient la bonne foi, c'est-à-dire ceux qui ont participé à ces deuxièmes dialogues, en considérant qu'en 12 mois, ils pouvaient organiser les élections en décembre 2017. Mais il s'est fait que, malheureusement...
Nous sommes déjà au mois d'avril.
Au mois d'avril. Nous avions pris un retard de 3 mois et nous sommes en train d'aller vers le 4e mois. Pouvons-nous croire que cet accord qui prévoyait les élections en décembre 2017, ne fût-ce que pour cet élément, peut encore être à l'ordre du jour, peut encore être
en vigueur, d'actualité.
Eh bien, en dehors de ces problèmes, il y a les problèmes de financement de ces élections, les trois élections en décembre 2017, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Il faut 550 millions de dollars. Plus les 200 millions pour la révision du fichier électoral, ça fait 750 millions de dollars. Il nous semble, et même le ministre du budget l'a dit, qu'il est impossible
d'organiser les élections.
Donc, déjà, cet accord devient aussi caduque. Il est donc nécessaire que cet accord soit adapté par rapport aux réalités du moment. Établir une date réaliste et établir une vision claire pour mobiliser les finances pour organiser ces élections.
Et quel est le cadre approprié pour adapter cet accord? Faudrait-il un troisième dialogue ou non?
Mais c'est aux acteurs politiques d'en décider. Nous, on fait tout simplement les constats. C'est ainsi que l'ancien Premier ministre Mouzit aussi posait plutôt la question. Au lieu de proposer un troisième dialogue, il se pose la question, ne nous dirigeons pas vers un troisième dialogue. En réalité, ce sont les acteurs actuels qui peuvent décider de résoudre ce problème dans le cadre d'une rencontre qu'on peut appeler un troisième round du dialogue. Tout comme, si eux, ils refusent de le faire maintenant, ils pourront le faire en septembre ou en octobre, quand ils vont constater qu'il sera impossible d'organiser ces élections en décembre. Parce que d'ailleurs, il vous souviendra que l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit effectivement qu'au cas où on n'arrive pas à organiser ces élections en décembre 2017, le CENESA, la CENI et le gouvernement vont se mettre ensemble pour prévoir une nouvelle date. Donc c'est une sorte aussi de troisième dialogue. Mais aussi, il peut arriver toujours qu'un troisième larron puisse arriver. On ne le souhaite pas. Mais même le troisième larron prévoira toujours une possibilité de rencontre, un probable troisième dialogue pour baliser le chemin. Donc c'est une réflexion. Nous, on a fait un constat. L'ancien Premier ministre a fait un constat du ping-pong qu'il y a eu entre la majorité présidentielle et les rassemblements qui nous a amené au retard d'aujourd'hui, à la limite même à un blocage. Le problème réel, le problème de financement des élections, où l'on considère qu'il n'y a pas une vision claire pour mobiliser ces finances, qu'on n'a pas de budget, il faut quand même qu'on le sache.
Jusqu'au mois d'avril, en principe, le mois de mars, c'était prévu la session budgétaire.
Et pire encore, on n'a pas le gouvernement approprié qui devait nous élaborer les budgets.
Non, il y a un gouvernement avec accord.
Un gouvernement sans feuille de route. Et la feuille de route qui devait en principe être utilisée
n'a pas de gouvernement.
Donc on est dans cet imbroglio où il faut nécessairement un haut sens de l'État pour sortir
Mais au moment où la tribune de Mouzitou parle de la caducité de ces deux accords, le Conseil de sécurité vient de voter une résolution 2348 où il reconnaît, où le Conseil de sécurité reconnaît l'accord du 31 décembre, comme pour dire... Il est d'actualité.
Effectivement. Nous, on ne dit pas qu'on doit jeter cet accord dans les oubliettes. Nous, on dit tout simplement qu'on doit l'adapter aux circonstances du moment. On ne peut pas quand même faire exister un accord qui prévoit une date d'ores et déjà qu'on sait aujourd'hui que ça ne sera pas respecté.
Alors pour l'adapter, il faut repenser la séquence des élections, par exemple.
Il faut soit repenser la séquence des élections. Si l'on considère que les élections les plus importantes sont la présidentielle et les législatives nationales, ça peut nous permettre de réduire le finance nécessaire pour organiser ces élections, et c'est toujours possible.
Parce qu'à la base de ces dialogues, c'était pour arriver à organiser les élections.
Effectivement.
Mais le conflit est né, effectivement, parce que le gouvernement n'a pas pu...
Oui, mais il y a eu un conflit, il y a eu une mésentente entre l'AMP et les rassemblements. C'est vrai que les rassemblements considéraient que l'élection élection prioritaire, c'est l'élection présidentielle, tandis que la majorité présidentielle y a ajouté les législatives nationales et les provinciales. À la limite, ils ont même ajouté les locales. Il a fallu qu'ils s'entendent pour mettre le local après. Donc, il y a ces problèmes-là. En principe, c'est une piste de solution d'arriver à réduire les séquences des élections. Parce qu'organiser trois élections en décembre, c'est 550 millions. Mais si on arrivait à organiser deux, voire une, ça peut réduire le montant. Mais
ça peut réduire le montant et c'est possible qu'au mois de décembre,
qu'il y ait élection, à la limite, la présidentielle.
La présidentielle. Alors donc là, si je comprends bien, la question aujourd'hui, la réflexion faite par Adolphe Mouzitou, c'est amener les gens à adapter, repenser l'accord de 31. Donc vous ne rejetez pas l'accord. On va écouter quelques-uns, les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Ingénieur Eric, vous êtes à Kikwit, bonjour. Ingénieur Eric, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Simon Tsiloulou qui est à Matadi. Simon Tsiloulou, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Simon Tsiloulou depuis Matadi.
Voilà, vous venez de suivre notre invité, Steve Kiwata, qui est cadre du Palou et puis porte-parole d'Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre, qui, au fait, nous a évoqué, au fait, les contextes dans lesquels cette tribune a été écrite. Voilà, donc c'est juste pour amener les Congolais à réfléchir un peu comment repenser l'accord du 31 décembre. Parce qu'aujourd'hui, on tend vers le mois de décembre, qui a été retenu comme date d'organisation des élections, parce que c'est ce qui est le message clé dans tous les accords ou tous les dialogues qu'on a pu organiser. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, moi je pense qu'ils n'ont pas, ils sont libres de penser, mais ils n'ont pas raison, parce que l'accord de Saint-Sylvestre, qui a d'ailleurs été incorporé dans la résolution des Nations Unies, si les juristes élisaient ce qu'on appelle une résolution, ça ne pouvait pas être encore l'objet d'une discussion, mais tout de même, dans l'accord de Saint-Sylvestre, ils ont tout prévu. Pour moi, faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est de reculer encore en arrière. Parce que aujourd'hui, l'accord est vraiment avancé. Et le processus électoral, parce que c'est jusqu'au mois de juillet. Donc même si les problèmes ici, on résolvait ces problèmes jusqu'au mois de juin, nous serons toujours dans les temps, parce que les processus électoral est lié à la révision des fichiers, de ces fichiers électoraux qui, à mon avis, l'enrôlement prendra fin au mois de juillet. On en avait tenu compte. Mais hier, pour le président, je crois que le président de la République, pour la énième fois, en tout cas, il a encore une occasion extrême de sauver les pays ou la RDC, comme l'avait fait Salomon lorsqu'il s'était retrouvé devant des femmes qui se disputaient d'un enfant. Alors, l'une des femmes a accepté de perdre la raison pour que l'enfant vive encore. Donc, tout est entre les mains du président de la République. Si aujourd'hui, le président de la République, moi je penserais même la consultation qu'il est en train de faire, il sait déjà les groupes où il y a des petits problèmes. Il parle avec ses groupes. Aujourd'hui, s'il reste dans cet accord, il se concerte avec le président du Rassemblement, on nomme le Premier ministre, il nomme le Premier ministre pour la CNSA, parce qu'il doit faire l'objet d'un consensus. Le Rassemblement, à ce moment-là, peut proposer une ou deux personnes, parce que s'il propose une personne, on va toujours le contester, on va aller de contestation à contestation. On peut proposer des personnes au niveau de CNSA, et puis on choisit celui qui va faire consensus, et puis fini les problèmes, on avance. Les tribunes d'Adolphe Mouzitou, les points, je les suis souvent, même en Europe où ils ont fait tout ça, c'est quand même bien, parce que ils ouvrent quand même la mémoire des gens. Mais pour ce cas ici, la CNSA a été créé pour résoudre aussi les problèmes de la CENI.
Voilà.
Donc si le
Premier ministre
aura
Des
reproches à faire, il peut les verser au niveau des CENI.
Merci beaucoup Simon. Alors vous avez évoqué la résolution.
Voilà, le jour, je crois,
merci beaucoup.
Cette semaine se terminera.
Merci beaucoup. Alors Faustin, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous partagez l'avis de Simon que le fait qu'aujourd'hui l'accord du 31, selon ses propres mots, a été inversé dans la résolution 2348, l'affaire est réglée, la messe est dite. Donc il doit plus avoir un autre dialogue ou encore d'autres consultations. Et je crois que c'est l'heure et à l'application de cet accord. Faustin. Voilà, on a des problèmes avec la ligne de Faustin. On va prendre plutôt Félicien. Félicien, bonjour.
Non, bonjour, bonjour à tous.
Voilà, je vous repose la même question que je posais tout à l'heure à Faustin. Est-ce que vous pensez, comme Simon Tiloulou, le fait qu'aujourd'hui il y a la résolution, on imagine que l'accord du 31 est versé dans cette résolution, la messe est dite et l'affaire est close. Donc on doit simplement appliquer.
Pas du tout. C'est un problème d'avoir des volontés politiques et du patriotisme et des affaires politiques qui ne veulent pas.
Alors Félicien, il y a des interférences. Est-ce que vous pouvez arrêter un peu votre poste récepteur et nous communiquer par téléphone, c'est mieux. Voilà.
Oui, allez-y. Je disais que pas du tout, il y a d'abord un problème de volonté politique et du patriotisme des affaires politiques qui veulent sans avancer ou reculer, c'est pas parce qu'il y a déjà les Nations Unies qui se mêlent que nous allons sortir de ce gouffre. Moi, je pense que les hommes politiques devraient savoir qu'on est arrivé à cette situation parce que d'abord, il y a eu un problème des élections qui n'étaient pas organisées à la date prévue. Et le président de la République, en convoquant les dialogues, il voulait trouver une solution au blocage de la situation. Et toute la classe politique n'était pas d'accord, surtout du côté de l'opposition, mais Étienne Tshisekedi et l'UDPS ont accepté d'aller au dialogue et convaincu les autres à faire de même. Et on est arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui. Et si réellement l'autre camp, la majorité présidentielle, avait accepté les résolutions de ce dialogue qui disent que le président ne se représente plus pour le troisième mandat et qu'on ne recourt pas au référendum, on n'aurait pas tous ces problèmes. Mais je pense qu'il y a quelque part un plan déjà préétabli du côté de la majorité qui ne veulent pas qu'on puisse aller aux élections tout de suite. Ou peut-être parce que ils sont en train de recourir à l'article de la Constitution.
Félicien, si on peut aller droit au but.
Nous ne pouvons pas.
Félicien.
Accepter ce que l'ancien premier ministre Moïse Tshudi, qu'il faut encore un troisième dialogue parce que le problème de notre pays n'est pas celui d'aller de dialogue en dialogue ou d'accord en accord. Nous avons plutôt un problème d'hommes, un problème de patriotisme. Nous avons un problème, nous avons plutôt des politiciens, mais nous n'avons pas des hommes politiques et d'hommes d'État plutôt qui puissent penser intérêt général de la nation. Quand vous regardez du côté du pouvoir, y a-t-il vraiment la volonté politique de faire avancer le pays dans la voie de la démocratie ou de l'état de droit? Et du côté de l'opposition, vous trouvez réellement aussi des opposants qui veulent vraiment changer réellement les choses? Ou bien ils se battent seulement pour leur propre intérêt et ils font la politique de hauteur que je vous mets? Regardez un peu le
voilà. Merci beaucoup Félicien. Voilà. Félicien, donc je comprends, vous avez
regardez leur langage, comment oui. Il a changé.
Voilà, merci beaucoup. Félicien, je comprends que vous avez responsabilisé les uns et les autres. Alors, on revient à vous, Steve. Mm-hmm. C'est vrai, il y a eu crise parce que les élections n'ont pas été organisées. Mm-hmm. Nous en sommes là. Donc, le nez du problème aujourd'hui, c'est l'organisation des élections. Donc, les chefs de l'État pouvaient également aussi organiser des consultations populaires. Mm-hmm. De poser la question directement à la population. Qu'est-ce que veut la population?
Mm-hmm. Moi, je pense que cette question...
Parce qu'aujourd'hui, quand vous proposez vraiment un autre mécanisme, mm-hmm. Je crois qu'on peut tendre aussi vers une consultation populaire.
Je pense que cette question a déjà une réponse. Le peuple a besoin de son pouvoir. Par conséquent, le peuple a besoin des élections. Donc le chef de l'État risquerait de dépenser beaucoup d'argent pour rien. Et je m'aimerais retourner sur le propos de M. Félicien Kindoula. Je voudrais répéter ici que l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito ne propose pas un troisième dialogue. Il ne le propose pas. Mais il constate que nous avions, il y a un certain nombre de problèmes, il y a qu'ont laissé les différents accords, même l'accord du 31 décembre, et même la question du CNSA ici, on doit bien en parler. On ne peut pas confier à quelqu'un la présidence d'une institution qui n'est pas prévue par la loi. La priorité aujourd'hui, c'est d'établir le règle sur le CNSA. C'est quoi cet organe? C'est quoi ses compétences? Comment est-ce que ça sera composé?
Il y a une loi. Il y a une loi. Le législateur va tabler sur ça parce qu'il a été dans l'accord. C'est bien mentionné.
Par conséquent, on ne peut pas commencer à résoudre un problème par la queue. On ne peut pas chercher à avoir les animateurs d'une structure qu'on n'a pas encore établie par les législateurs. On doit commencer par mettre en place la loi sur les CNSA parce qu'on doit savoir c'est quoi ses compétences. Est-ce que ça peut sanctionner le gouvernement lorsque le gouvernement n'arrive pas à respecter le chronogramme tel qu'établi par l'accord? Quel sera, est-ce qu'il y aura un chevauchement avec l'Assemblée nationale qui prend des motions de censure? On doit tabler sur ça. On ne peut pas parler des animateurs d'une institution qui n'est pas organisée par la loi. Il y a un peu trop d'informations.
Dans le terme, la référence n'est pas
concordée. N'est pas bien établie, certes. Mmh. Avec le président Étienne Tshisekedi, c'était un homme politique. Mmh. On lui a confié cette fonction in tutu personae. On voulait même à la limite lui confier la présidence d'une institution qui n'existait pas. Parce que sur le plan politique, il fallait montrer que lui ne pouvait pas être nommé par le président de la République. C'était un cas exceptionnel. Les autres sont des humains qui n'ont pas le même poids politique que le président Étienne Tshisekedi. Quand on leur donne une fonction, ils doivent avoir des compétences bien établies d'une structure qui a été bien organisée par la loi. Donc, voilà une grande priorité.
Alors, il y a une question qui taraude un peu l'esprit. Vous êtes de Palou, cadre de Palou, porte-parole d'Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre de la République. Comment ça s'est passé lorsque on avait désigné Antoine Gizenga comme Premier ministre? On était là pratiquement dans la même situation, d'une coalition. Mm-hmm. Parce que là, la majorité n'existait plus. Mm-hmm. Et la politique reposait sur une coalition entre la majorité, les pouvoirs en place, et le Palou, qui avait rejoint la majorité. Mm-hmm. Et nous nous retrouvons maintenant dans cette situation où la majorité va travailler avec l'opposition. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu trois noms?
Je voudrais d'abord...
À part Gizenga, il y avait eu deux noms encore.
Avant d'y revenir, je voudrais tout simplement vous dire ceci. À l'époque, certes, les règles du jeu étaient bien établies parce qu'on avait une constitution à appliquer. Actuellement, il y a déjà cet imbroglio. Il y a d'un côté une constitution, de l'autre côté l'accord. D'accord. En principe, les rassemblements aussi, ils étaient jusqu'au boutiste en appliquant l'article 64 pour faire réellement légitimer le président de la République à travers l'accord. On devait mettre de côté la constitution de 2006. C'est-à-dire en adoptant un nouvel acte constitutionnel, c'est ce qui allait permettre qu'on se dise que le président de la République doit son mandat à la classe politique. Mais malheureusement, le rassemblement n'est pas allé jusqu'au bout, on comprend peut-être au nom de la paix. Aujourd'hui, nous avons deux règles du jeu. D'un côté l'accord, de l'autre côté la constitution, d'où la confusion. Mais en principe, dans un État, lorsqu'on veut gérer ensemble, la nécessité, c'est la mise en place d'une coalition. Et à l'époque, avec le patriarche Antoine Gizenga et président Kabila à l'époque, eh bien, la coalition a été mise en place. Et les discussions ont été faites. Parce que quand vous êtes en train de discuter sur les animateurs, le peuple n'a pas besoin de savoir.
Ce sont des discussions de chambre.
Il peut avoir 10 noms, 15 noms.
Même 70, le peuple n'a pas besoin. Il a besoin d'un Premier ministre.
Le peuple a besoin d'un Premier ministre. C'est ça le sens général de l'État. Et vous vous souviendrez que même le patriarche Antoine Gizenga a commencé par être nommé comme un formateur pour formaliser la coalition avant qu'il soit nommé par après formateur du gouvernement, donc Premier ministre. Et c'est la même chose qui s'est passée après pour Adolphe Mouzitou. Les discussions se sont faites entre
Antoine Gizenga et Kabila
pour choisir. Il y a eu plusieurs noms. Finalement, on a choisi Adolphe Mouzitou. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est au sens de l'État où les rassemblements et la majorité présidentielle doivent mettre de l'eau dans leur vin, doivent mettre leur ego de côté.
Alors je reviens sur ma question. Quel doit être le cadre maintenant pour résoudre ce problème?
Mais le cadre, c'est
juridiquement parlant. Parce que quand vous parlez de la caducité de l'accord du 18 octobre et la caducité de l'accord du 31, ce qui veut dire qu'il faut créer un autre cadre.
Il faut adapter le cadre de
donc le 31 n'est pas caduque.
N'est pas complètement caduque.
C'est parce que déjà les chefs de l'État parlent de 98% et 2%.
Effectivement, mais le 98%, faut faire attention parce que le 2% dont on parle, c'est peut-être le 98% pris dans l'essence de l'efficience, de l'essence de l'essence de l'accord. Parce que aujourd'hui, c'est le CNSA et le gouvernement qui vont mettre en branle l'accord. L'accord ne peut pas se mettre en branle sans les deux institutions majeures. Donc, par conséquent, c'est que les chefs de l'État appellent 2% peut être considéré autrement comme 98%. Donc, aujourd'hui, la nécessité, comme M. Félicie Kudou la disait, et l'autre ami, tout n'est pas prévu dans cet accord. Cet accord ne prévoit pas le finance nécessaire pour organiser les élections. Nous, on ne dit pas que forcément on doit revoir quant à ça. Nous, on dit qu'on doit mettre en place la coalition, et cette coalition nous permettra de mettre en place une vision commune qui nous permettra de savoir où est-ce qu'on pourra avoir
les finances nécessaires. L'idée, c'est d'avoir une coalition. Alors, Billy Paul, est-ce que partage cet avis? Billy Paul, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Est-ce que vous partagez l'avis aujourd'hui, il y a nécessité de trouver une coalition pouvant conduire le pays vers les élections?
Bon, c'est difficile normalement de trouver une coalition, parce que étant donné que non, bon, chaque parti politique a ses idéologies. Alors, c'est là ça.
Voilà, dommage. On ne saura pas vous garder. Billy, vous sortez entrecoupé, on ne sait pas suivre de quoi vous parlez. Alors, Emmanuel de Lumbashi, vous êtes avec nous. Bonjour, Emmanuel.
Oui, bonjour, Gilles. Bonjour, monsieur l'invité.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution, je suis en train de faire une remarque par rapport à la caducité. Tu sais, Gilles, on ne sait pas parler de la caducité pour une histoire qui n'est pas encore en place. Moi, je pense que cette caducité n'a pas la raison d'être du fait que même si l'accord tarde à venir, mais les élections doivent avoir lieu du fait que la CENI n'a pas arrêté son travail. Parce que je ne trouve pas même si le gouvernement est en place depuis le mois d'octobre. Même si le gouvernement est en place depuis le mois
d'octobre. Oui, Emmanuel, l'idéal c'est qu'il faut éviter à la population les scènes de contestation, par exemple, des élections qui seront organisées, mais si les autres ne se retrouvent pas dans les gouvernements, il y aura des suspicions, et il n'y aura pas confiance dans tout ce qui va se faire, quoi.
Oui,
l'idée aujourd'hui, c'est la coalition, c'est la co-gestion.
C'est un problème qui peut être réglé même dans 3 mois avant les élections. Il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que j'allais aussi ajouter le deuxième élément, c'est quoi? Le CNSA, apparemment, n'a pas un problème du tout de légitimité. Le problème qui se pose, c'est le problème de la primature. JR, je vous le répète, si demain, le président Kabila faisait des concessions énormes et qu'il donnait un langage très clair, je pense que tout ce que nous avons comme Ivrogrio ici va se terminer. Alors, de mon point de vue, je ne trouve pas que le CNSA ait un problème du tout dans cet accord. Même si il arrivait qu'on supprimait cette structure, et ça ne pose pas problème. Le problème, c'est la primature. Si on nommait la personne est réelle et la personne qui a un poids, je pense que le problème sera...
Merci beaucoup, Emmanuel. Émile, vous êtes à Kananga. Bonjour, Émile. Émile, vous êtes avec nous?
Oui, c'est Julien.
C'est Julien Bandaka. Julien, bonjour.
Oui. Bonjour.
Voilà, quelle est votre contribution, Julien?
Oui, ma contribution, pour moi, je dirais ceci. C'est que je demanderai tout d'abord au président de la République, comme il est le garant de la nation, qu'il puisse ôter l'option qu'il est de la majorité ou de l'opposition. Il était allé aux élections de 2011 comme un candidat indépendant. Il est arbitre pour ce moment. La CENCO a déjà travaillé. Il a fait presque 98% de son travail. Mais ce qui reste, ce n'est que les 2%. Concernant la désignation du Premier ministre, qui doit sortir.
Alors, Émile, est-ce que c'est opportun, Julien, est-ce que c'est opportun les nouvelles négociations pour repenser un peu l'accord?
Mais la négociation continue. La CENCO vient de rompre les tabliers.
Non, la CENCO arrive à la fin des négociations. Oui, parce que c'est la nuance qu'on devait faire. Les uns parlent de l'échec, d'autres disent, bon voilà, ils ont pris acte, bon, chacun est libre, mais nous avons reçu Abbé Chollet dans ce studio qui a confirmé que la CENCO est arrivée à la fin de la mission qui lui a été donnée. Donc voilà, il reste les 2 points, le 98 ont été réalisés. Ça c'est selon l'Abbé Chollet dans ce studio.
Oui.
Voilà, merci beaucoup Julien. Julien. On va prendre aussi Émile parce qu'on va gagner de temps. Émile, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur JR.
Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup. D'abord, il faut dire que le troisième dialogue est inopportun. Pourquoi? Parce que
C'est comme si aujourd'hui les deux accords supplantent la constitution. Alors aujourd'hui les gens sont en train d'oublier que nous avons dans ces pays une constitution qui est un dénominateur commun de tous les Congolais. Il faut dire déjà à partir de ce moment que le pouvoir qui nous a dirigés tous ces derniers temps s'est révélé d'abord inefficace au moment où ils étaient encore légitimes. La preuve en est que les différents foyers de tension étaient observés ça et là. Et aujourd'hui, penser au troisième dialogue serait une occasion d'amplifier davantage les tensions, les exactions qui se commettent.
Merci, merci beaucoup. Merci,
chaque jour déjà sur le terrain.
Voilà, merci beaucoup. On va accorder la parole à notre invité pour la conclusion. C'est vrai. Comment entrevoyez-vous l'avenir politique? Parce que dans les jours demain déjà, il y aura, sauf imprévu, les discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès pour, au fait, replacer des choses dans son contexte et éclairer la lanterne des uns et des autres et la religion même de ceux qui se trouvent un peu dans une confusion la plus totale en ce qui concerne les accords. Vous avez parlé de la caducité, de l'adaptation de cet accord du 31 avec des éléments précis, si vous pouvez peut-être le répéter.
Ok, donc ici, je pense que le chef de l'État est dans une posture où il doit nécessairement amener le pays de l'avant, parce que il a mis en place une ordonnance pour le dialogue qui disait que le médiateur dans le conflit au dialogue, c'est un facilitateur international désigné par l'Union africaine, comme l'a demandé les Nations Unies. Eh bien, ce n'est pas à lui de jouer le rôle de médiateur. À la limite, c'est à lui, conformément à l'ordonnance, de faire appliquer cet accord par les autres institutions de la République. C'est ce qui est prévu. Donc, demain, nous attendons qu'effectivement, que le chef de l'État donne sa vision des choses sur l'exécution de cet accord. Eh bien, il est impérieux de nommer le Premier ministre. Il est impérieux de demander au Parlement d'élaborer la loi sur le CNSA, ce qui permettra par après que l'on puisse nommer les animateurs de ces institutions. Parce que avant de nommer ces animateurs, on doit savoir c'est quoi les compétences de cette structure.
Tout cela, ça doit se faire dans quel cadre? Seulement le chef de l'État peut consulter, ou bien on peut créer les deux camps
Non, camp c'est-à-dire que le processus du dialogue, nous estimons que ça doit rester permanent. Parce que nous, on s'est dit, si on le fait pas maintenant, à un certain moment, en septembre, en octobre, on va se rendre compte qu'il est impossible d'organiser les élections en décembre 2017 et que par conséquent, on devra trouver une autre date. Deuxièmement, il est aujourd'hui très important, obligatoire, que l'AMP, parce qu'on ne peut plus parler de la majorité de l'opposition, l'AMP, les rassemblements et les autres, ils doivent savoir que il n'y a ni majorité ni opposition. Parce qu'on ne peut pas croire que s'il n'y a pas majorité, qu'il peut y avoir une opposition. Donc, il faut nécessairement que cette coalition soit mise en place. C'est quoi l'intérêt de cette coalition? Les gens doivent savoir qu'ils n'ont pas le pouvoir obtenu par le peuple. Par conséquent, ils doivent redonner ces pouvoirs au peuple. Ils doivent donc avoir une vision commune sur où est-ce qu'ils pourraient avoir le finance nécessaire pour organiser les élections. Parce qu'il faut quand même qu'on laisse ça sur le plan interne. On n'a plus rien, il n'y a pas de budget. Et l'ancien budget, projet de budget que Matata nous a laissé, c'était 250 millions prévus pour les élections en l'année 2017. Et que si on veut organiser ces élections, qu'il faut 550 millions pour les trois élections, eh bien il faudra le trouver quelque part. Et pour mieux le trouver, il faut une vision commune. Pour qui passerait nécessairement, comme l'a dit l'ancien Premier ministre Mouzito, par un plan d'aide international, parce que la communauté internationale doit mettre la main dans la poche.
Steve Kivuata, cadre du Palou et porte-parole d'Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cet échange citoyen et aussi toute l'équipe qui a concouru à la production de ce programme. André Mongo était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation et Martin Sebujangui a supervisé cette émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.